Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussa Oponde. Le couple royal belge attendu à Kinshasa début mars prochain, c'est sur invitation du président Félix Tshisekedi. En même temps, le ministère belge de la Défense annonce les déploiements prochains des militaires belges en RDC. Début hier mercredi des plaidoiries dans le procès Tshebea. Les parties civiles resserrent à nouveau l'étau autour de Joseph Kabila et John Numbi, qualifiés d'auteurs intellectuels et matériels du double crime et appelés à donner leur vérité sur cette affaire. Notre invité est Andreas Kalk, directeur pays de la GIZ en RDC. Cette agence de la coopération allemande organise depuis hier à Kinshasa un atelier de planification annuelle de ses activités. Bonjour à tous. Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, attendus à Kinshasa, ils vont effectuer une visite officielle en RDC du 6 au 10 mars sur invitation du président Félix Tshisekedi. L'annonce est faite par le directeur de cabinet du président de la République dans un communiqué. Par ailleurs, la RTBF, citant les sites internet du ministère belge de la Défense, annonce que des militaires belges seront déployés en RDC dès le printemps. Des détails avec vous, Pélékipé Lamondo.
S'agissant de la visite officielle du roi des Belges, le communiqué signé par les directeurs de cabinet du président Félix Tshisekedi renseigne que le couple royal belge sera à la tête d'une importante délégation comprenant notamment le premier ministre Alexander De Croo, la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, ainsi que la ministre de la Coopération et Développement Myriam Kittir. La présidence ajoute que les détails sur les étapes et le contenu de cette visite royale seront donnés dans les prochains jours. Cet événement marquera une fois de plus l'excellente qualité des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, note le communiqué. Au sujet de la présence des militaires belges au Congo, notre consoeur, la RTBF, indique qu'à la suite d'une demande du gouvernement congolais en octobre 2021, les militaires belges seront déployés à Kindu et à Kinshasa afin de contribuer à la stabilité du pays. D'après le ministère belge de la Défense, je les cite, « La stabilité régionale est d'une grande importance tant pour les Congolais que pour notre propre pays. En effet, l'instabilité sur le continent africain impacte notre sécurité et notre économie. » Fin des citations. La Belgique est sollicitée pour une expertise militaire pour les techniques d'orientation et l'assistance médicale d'urgence sur le terrain et des techniques de détection et de neutralisation des engins explosifs improvisés. Dès le printemps, ce qui coïncide au mois d'avril, 25 militaires belges rejoindront les camps de Luama à Kindu, où sont formés les militaires pour apporter une réponse aux groupes terroristes. En septembre, un autre détachement viendra assurer les suivis de la première mission.
Le 30e anniversaire de la marche des chrétiens qui a eu lieu le 16 février 1992 pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine a été commémoré hier mercredi 16 février 2022 à Kinshasa. Outre la messe dite à cet effet à la paroisse Saint-Joseph de Matongé, le collectif du 16 février a organisé une conférence débat sous le thème 30 ans 1992-2022, les croyants congolais toujours interpellés au courant politique. Le professeur Thierry Landou, conférencier du jour, a expliqué l'essence de ce thème et c'est que les Congolais peuvent tirer actuellement de cette mobilisation des chrétiens de l'époque. Il a été joint au téléphone par Jean-Francis Mouya.
30 ans après, nous sommes toujours interpellés au courage politique. Le bilan, il est simple. Ce que nous avons réussi à braver le 16 février 92, c'est notre peur. Nous avons osé affronter ceux qui nous gouvernent, tout simplement parce que nous avons ressenti qu'il y avait une injustice par rapport à un forum qui se tenait, qui était la Conférence nationale souveraine, et qu'ils avaient interrompu brusquement. Or, cette Conférence nationale souveraine a représenté l'espoir de toute une nation de voir tourner la page de la dictature. Aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en reste. Parce que le problème, c'est que les gens pensent que aller vers la démocratie, c'est quelque chose qu'on va acquérir en une fois. C'est faux. Nous sommes justement dans ce processus. Tout récemment, nous avons vu en 2017 le même peuple se remobiliser pour arriver à faire en sorte qu'on ne change pas la constitution de notre pays. Et les gens ne s'imaginent pas la force que nous représentons. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des pays d'Afrique centrale, les présidents en place ont réussi à changer la constitution pour se taper un troisième mandat. Et bien chez nous, le régime n'a pas réussi à changer la constitution. Et bien c'était sous la pulsion de ce peuple qui s'est mis ensemble pour dire non, on ne touche pas à notre constitution.
Un autre anniversaire, ce sont les 40 ans d'existence de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, célébré le mardi 15 février. Selon le secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi, contrairement aux années antérieures où l'UDPS a organisé des manifestations à travers le pays, cette fois-ci, elle dédie cette journée au bon Dieu, car, poursuit Augustin Kabuya, le bon Dieu a permis qu'ils accèdent au pouvoir par les moyens pacifiques, comme ont voulu les pères fondateurs du parti. Augustin Kabuya est joint par Blaise Chindani.
Nous avons dédié cet anniversaire à Dieu, créateur des cieux et de la terre. Comme vous le savez, quand nos pères fondateurs avaient commencé ce combat, nous, on n'était pas encore avec eux. Nous sommes les héritiers. Nous sommes des gens qui ont hérité un parti créé par un groupe de 13 parlementaires qui voulaient voir les changements intervenir dans notre pays. Et ces 13 parlementaires s'étaient consignés ou bien donnés une mission de libérer notre pays de la dictature, mais par des méthodes pacifiques de la non-violence. Après la disparition de tous nos pères fondateurs, nous les héritiers, quand nous sommes restés, nous n'avons pas utilisé d'autres méthodes pour accéder au pouvoir. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir par la voie légale, la voie pacifique, démocratique. On ne pouvait que penser à Dieu, puisque le Seigneur dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous avons toujours organisé des grandes manifestations à travers le pays, mais c'est pour la première fois qu'aujourd'hui, l'UDPS organise des cultes et des messes à travers tous les pays pour dédier cet anniversaire à Dieu, puisque avec Dieu, nous irons plus loin que si nous ne pensons pas à autre chose.
En bref, Jean-Marc Kabound, vice-président de l'Assemblée nationale, accuse Christophe Mbosso, président de cette institution, de refuser de signer son autorisation de sortie pour des soins à l'étranger. Il lui a exprimé dans une lettre déposée auprès de ses services hier mercredi. Jean-Marc Kabound rappelle à Christophe Mbosso que le fait de ne lui avoir pas octroyé l'autorisation de sortie jusqu'à présent, malgré son rapport médical mis à sa portée pour éclairer sa lanterne, s'apparente à une violation délibérée du règlement intérieur de la chambre basse du Parlement. Il lui rappelle de respecter sa parole donnée après les échanges entre les deux personnalités. Procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, comme annoncé les plaidoiries, ont débuté hier à Kinshasa. Elles vont se poursuivre le mercredi prochain. La première a plaidé à l'audience publique d'hier mercredi devant la haute cour militaire à la prison militaire de Ndolo. Les parties civiles resserrent à nouveau l'étau autour de Joseph Kabila et John Numbi, qualifiés d'auteurs intellectuels et matériels du double crime et appelés à donner leur vérité du film de cet assassinat à la lumière des aveux de Paul Mulambwe et Daniel Mukalai. Nous voulons que cette vérité contribue à la fin de l'impunité et de la non-récidive dans ce pays, plaide maître Richard Bondo, président du collectif des avocats des partis civils Chebeya, Bazana et la VSV. Il est au micro de Jeff Ngoy.
L'élément nouveau, c'est l'aveu des assassins Mukalai, Mugabo, surtout la vérité de l'assassinat lui-même. Le film tel qu'il nous a été déroulé par Mwilambwe. Ceci revient à dire que les prolégomènes que j'ai soumis à l'examen de la cour demeurent intacts pour que, même prise en délibéré, la cause subisse une réouverture des débats parce que nous devons, au nom du contradictoire, connaître la vérité du sénateur à vie, ancien président de la République Joseph Kabila, la vérité du général John Numbi à l'issue de ce procès, que l'impunité soit éradiquée dans notre pays, cette éradication comme garantie de la non-récidive.
En 2021, plus de 290 incidents sécuritaires affectant les humanitaires ont été enregistrés dans les provinces de l'Est. 7 travailleurs humanitaires ont été tués, dont 3 au Nord Kivu. C'est ce que rapporte le Bureau de coordination humanitaire OCHA dans sa publication du rapport annuel mardi. Les incidents affectant directement des personnels ou biens humanitaires continuent d'être notifiés, principalement dans les provinces de l'Est, du fait de la situation sécuritaire qui y prévaut. Des Flore Ocha. À Beni, la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, plaide pour des opérations militaires simultanées dans la région limitrophe du territoire de Mambasa en Ituri et de Beni au nord Kivu, où les exactions des rebelles ADF sur les civils sont toujours signalées. Tout en saluant les efforts des forces conjointes dans la région, cette structure de défense des droits de l'homme plaide également pour la suppression des barrières illégales, notamment sur le tronçon Beni-Biakato-Mambasa. Maître Eli Kionga, chargé de monitoring de CRDH dans la région de Beni, le dit à Marc Marofimbo.
La CRDH soutient les opérations conjointes FRDC-UPDF du grand travail qu'ils sont en train d'embattre, de faire sur le terrain. Néanmoins, la CRDH condamne également le tuyérisme sporadique qui sévisse sans et là, malgré la surmilitarisation dans la région. C'est pourquoi la CRDH recommande aux décideurs de mener des opérations conjointes simultanées à territoire de Beni, Mambasa et Irum. Également, la CRDH recommande aux autorités de l'état de siège et sollicite leur implication dans la suppression de toutes les barrières illégales sur les tronçons Beni-Biakato-Mambasa sur la RN44 et dans les tronçons Beni-Komanda-Bunia sur la RN44.
Dans la ville de Bandundu, la police nationale congolaise a présenté mardi dernier au gouverneur de la province 10 présumés criminels au bandit Urumba. La cérémonie a eu lieu au commissariat provincial de la police en présence de plusieurs cadres de services de sécurité. Ces bandits ont été appréhendés lors des opérations de traque des inciviques organisées dans la ville afin de lutter contre la recrudescence de la criminalité qui bat son plein ces derniers jours à Bandunduville, a dit le commissaire provincial de la police du Kwilu. Irène Boma pour plus d'explications.
Ces 10 malfrats présentés mardi au gouverneur de province, dont une femme, ont été appréhendés par la police avec notamment des armes blanches, du chanvre et plusieurs objets volés lors de leurs opérations. À l'occasion de leur présentation, le commissaire provincial de la police du Kwilu a indiqué que la ville de Bandundu connaît ces derniers jours une recrudescence avérée de la criminalité qui enlève la paix des paisibles citoyens. Le général Canold Kamana en dit les causes.
Il y a eu plusieurs criminels qui ont eu la grâce présidentielle sont dans la ville et il y a eu un regain de la criminalité urbaine dans la ville de Bandundu. L'instruction avait été donnée pour que nous puissions redynamiser nos services de patrouille et autres afin que nous puissions mettre ces bandits Luna hors état de nuire.
Pour sa part, Félicien Kiwai, vice-gouverneur du Kwilu, s'est exprimé en ces mots.
Je souhaite que nous puissions voir aussi les procureurs. Et maintenant que les victimes sont là, il a fallu que dans 2 jours qu'il y ait audience publique, la police peut demander les moyens pour les déférer ailleurs. Ça, c'est très dangereux. Général, je ne sais quoi dire que vous remerciez de la mission régalienne que vous êtes en train de rendre à la population des bandits.
Félicien Kiwai invite la population à dénoncer toutes les cachettes de ces hors-la-loi afin qu'il soit mis hors d'état de nuire. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Territoire de Lubero, Nord Kivu, la société civile, le bourgmestre de la commune de Kanyabayonga se félicite du lancement des travaux de construction d'un marché public moderne dans cette commune rurale. Selon eux, ce projet financé par la MONUSCO est une réponse à un grand besoin de la communauté car il permettra de booster l'économie de la région. Grâce à Mzati.
Ce projet financé à près de 100 000 dollars américains par la MONUSCO permettrait de construire des hangars modernes, des toilettes, un bureau pour le comité du marché et d'installer un éclairage public. Le projet va contribuer à la réintégration socio-économique des ex-combattants, jeunes à risque et femmes vulnérables qui vont exécuter les travaux, mais aussi aider au relèvement économique de la communauté. Pour le président de la société civile de Kanyabayonga qui salue cette démarche de la MONUSCO, ce marché va booster l'économie de la région. Daniel Sengemoja.
La capitale de toutes les entités, campagnes environnantes, Miriki, Luofu, Kamandi, Bokende, partout ailleurs. Donc, quand une entité comme ça, une entité cendre de toutes les autres entités de campagne, pouvait rester ça et marquer comme ça, ça pouvait être une façon de ne pas permettre une circulation monétaire. Si le marché pouvait finir à être construit, c'est l'économie de la ville qui va vite monter parce que dans l'État, les gens vendaient dans des conditions vraiment bizarres.
Le bourgmestre de la commune de Kanyabayonga souligne pour sa part que ce projet est le premier du genre dans son entité. Fatiri Chrysostome ajoute que les populations rechignent à payer les taxes, mais avec ce marché qui répondra à leurs besoins, il espère qu'elles s'acquitteront facilement de leurs devoirs fiscaux. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
La société civile du territoire de Sandoa, dans le Lualaba, plaide pour la réhabilitation de la route menant vers ce territoire à partir de Kasaji ou de Kapanga. Pour cette structure citoyenne, ce grenier de la province se trouve enclavé à cause de la dégradation avancée de ses différentes voies de communication. On écoute à ces sujets Italie Emmanuel de la nouvelle société civile de Sandoa, joint par Jean Gandou.
Notre cri de détresse est la route Kasaji-Sandoa-Sandoa-Kapanga. Cet axe de grande importance parce que reliant la ville de Kolwezi à Chikapa via Kananga et celle de Mbujimayi via Wikong-Mweneditu est dans un état de délabrement très avancé. Et Sandoa se retrouve dans une situation d'enclavement total, causant ainsi la rareté de la hausse de prix de produits manufacturés de première nécessité. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement provincial d'intervenir en bouchant premièrement les points les plus chauds, comme la digue Louizu, à presque 16 km de Sandoa et l'endroit appelé Terre Noire, après Chimbungu vers Musumba. Car présentement, les usagers de la route, si cette voie commence à faire des mois pour quitter Kolwezi, atteindre Kapanga. Et pourtant, Sandoa est réputé comme étant un grenier agricole avec une grande production de poissons d'eau douce. Si cette route était bien aménagée, ces territoires ravitailleraient tous ces grands centres cités si haut. Mais présentement, la situation est grave. C'est pourquoi nous demandons aux autorités provinciales de pouvoir s'y mettre pour que cette route puisse être en bon état. Ça sera vraiment la raison de dire le peuple d'abord. Parce qu'ici, chez nous, la population ne se retrouve pas. Nous voulons réellement que la population puisse se retrouver dans ces infrastructures.
Le ministre provincial des infrastructures dans le Lualaba reconnaît que la situation est très préoccupante. Toutefois, Paulin Kalao indique que les entrepreneurs sont à pied d'œuvre, mais les travaux sont ralentis par les fortes pluies qui s'abattent ces derniers temps sur cette province. Ainsi, il appelle la population de Sandoa à prendre son mal en patience.
Actualité internationale.
Suite au coup d'État du 24 janvier dernier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est désormais officiellement président du Burkina Faso. Il a été investi hier mercredi à Ouagadougou par le Conseil constitutionnel.
L'invité.
L'image des relations bilatérales entre la RDC et l'Allemagne est positive, a déclaré le directeur pays de la GIZ en RDC en marge d'un atelier de planification annuel de cette agence de la coopération allemande organisée à Kinshasa du 16 au 17 février. Andreas Kalk est notre invité. Suivez-le dans cet entretien avec Honoré Missenga.
Monsieur Andreas Kalk, bonjour.
Bonjour monsieur.
Le GIZ en atelier à Kinshasa, c'est au sujet de quoi?
Nous faisons annuellement un atelier de planification pour les activités, comment dirais-je, transversaux qui tiennent à voir avec tous les engagements de nos projets ici. Alors, on ne parle pas tellement sur les contenus spécifiques de ce que les projets font, mais on parle un peu sur le cadre de la coopération germano-congolaise en termes généraux, en dialogue aussi avec participation de notre ambassade et de nos organisations sœurs, la KfW et la BGR, et on essaie d'établir lesquels seront les sujets transversaux d'intérêts conjoints sur lesquels on va se pencher au cours de cette année. Nous venons de terminer un échange avec le chargé d'affaires de la République fédérale d'Allemagne, représentant ici son Excellence, notre ambassadeur, et on a essayé d'approfondir un peu notre compréhension conjointe, d'abord de la situation politique ici en RDC et en ce qui concerne les relations germano-congolaises. Et l'image d'ailleurs nous offerte par notre chargé d'affaires en ce qui concerne les relations bilatérales était de mon avis extrêmement positive.
Alors c'est dans quel domaine qu'on peut comptabiliser les interventions allemandes en RDC?
Les secteurs principaux dans lesquels l'Allemagne intervient ici, à travers de la KfW, BGR et GIZ, sont le secteur d'eau, les secteurs de la protection des forêts et de la biodiversité. Numéro 3, paix et stabilité, surtout à l'est du Congo. Et numéro 4, c'est la croissance économique, avec un accent particulier sur le secteur minier.
On peut avoir un petit bilan par rapport, d'une manière sommaire, les grands projets qui ont été planifiés pour l'année dernière, peut-être faire un petit bilan autour de ces projets-là.
Bon, des fois, c'est mieux de discuter des exemples que de parler avec des mots un peu abstraits sur les grands axes. Alors, j'ai eu le privilège de visiter la semaine passée la ville de Gemena et la province du Sud Ubangi, où la KfW et la GIZ sont engagées dans le secteur eau. Et selon tout ce que j'ai vu et appris, Il y a l'eau courante là-bas à Gemena de 6h du matin jusqu'à presque minuit et l'eau est même potable. Alors l'eau est d'ailleurs aussi à un prix abordable, vendu au forage. Pour moi, c'est un exemple très pratique de succès assez tangible de la coopération germano-congolaise.
Oui, ça c'est un succès dans la partie ouest, mais dans la partie est, où vous avez le gros de vos interventions?
Bon, on a un grand bureau à Bukavu où on travaille dans plusieurs secteurs d'intervention et un bureau un peu plus petit à Goma qui interagit surtout avec les systèmes Nations Unies et avec la MONUSCO, mais plus précisément dans la pacification de la région. Nous savons tous, je pense, que c'est un problème qu'on ne saura pas résoudre d'un jour à l'autre, mais moi je suis optimiste que les engagements d'abord du gouvernement congolais appuyés par les partenaires au développement, en commençant avec le système des Nations Unies, que ça donnera des résultats plus tôt ou plus tard.
Parlons un peu des chiffres. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la hauteur financière des interventions allemandes en RDC pour l'année dernière?
Bon, je parle ici seulement pour la GIZ. Les chiffres de la KfW et de la BGR sont à ajouter encore, mais là-bas, je ne suis pas informé en ce qui concerne les détails. On a reçu l'année passée des nouvelles commissions de notre gouvernement comme GIZ d'une valeur conjointe de 90 millions d'euros. Et on a observé que l'année passée, 35 millions d'euros étaient absorbés. Nous anticipons qu'on va dépasser les 50 millions d'euros comme GIZ au cours de cette année 2022.
Est-ce que le facteur coronavirus a impacté vos interventions? Certainement.
Certainement, comme vous le dites, alors les restrictions en termes de mouvement, le manque de possibilité d'interagir d'une manière directe avec les projets, etc., ça, comment dirais-je, ralentit le rythme des projets d'une manière considérable. Mais de profession d'ailleurs, je suis médecin, alors parlant comme médecin, je suis plutôt optimiste que le pire de la crise soit derrière nous et qu'on pourra se pencher bientôt sur des autres défis qui ne manquent pas d'ailleurs dans ce pays-là où il y a beaucoup de champs de travail quand même.
Monsieur Andreas Kolk, merci.
C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.